Fasciné de textes liturgiques de ce 20e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de l'épître aux Éphésiens, chapitre 5. Mes frères, ayez soin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des hommes sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne devenez pas imprudents, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et ne vous enivrez pas de vin, car c'est une cause de vie dissolue. Mais remplissez-vous du Saint-Esprit, vous entretenant de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels, chantant et psalmodiant du fond du cœur le Seigneur, en rendant grâce en tout temps et pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Christ. Je lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait un officier royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus venait de Judée en Galilée, il alla le trouver, le supplia de descendre chez lui pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez les signes et les prodiges, vous ne croyez point. » L'officier lui dit : « Seigneur, descendez avant que mon fils meure. » Jésus lui dit : « Allez, votre fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Or, tandis qu'il descendait, ses serviteurs vinrent au devant de lui et lui annoncèrent que son fils vivait. Il leur demanda l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux et lui dirent : « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit : « Votre fils vit », et il crut, lui et toute sa maison. Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais insister un petit peu sur la très grande fête de demain. On ne réalise sans doute pas assez cela. La fête de demain, c'est la maternité divine de notre Sainte Vierge Marie. C'est le plus grand titre de gloire de la Sainte Vierge. On a du mal à comprendre souvent quand je demande à mes fidèles quelle est la plus grande fête de la Sainte Vierge, ils vont me répondre l'Immaculée Conception ou l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Mais liturgiquement parlant, même si la fête de demain est une fête qui n'est que de double deuxième classe, c'est la plus grande fête de la Sainte Vierge. Parce que tous les titres de gloire de la Sainte Vierge découlent de son titre principal, elle est Mère de Dieu. Mater Dignité Divine, ça veut dire ça. Elle est la Mère de Dieu. Et c'est parce que la Très Sainte Vierge Marie est Mère de Dieu qu'elle est Immaculée Conception, que son corps est monté au ciel sans attendre, sans avoir la pourriture du tombeau, comme pour nous tous, le 15 août. C'est parce qu'elle est Mère de Dieu qu'elle est médiatrice de toutes les grâces. C'est parce qu'elle est Mère de Dieu qu'elle est co-rédemptrice du genre humain. C'est parce qu'elle est Mère de Dieu qu'elle a pu apparaître à Lourdes, à Fatima, à Pontmain, à la Salette, à Notre-Dame de Guadeloupe, au Mexique, etc. Tout ça découle de son titre de gloire, Mère de Dieu. Elle est mère d'un enfant qui est Dieu et homme. Toute la foi catholique est contenue là-dedans. Elle est mère d'une personne qui, dans cette personne, dans ce qu'on appelle l'hypostase, a une double nature. Une nature humaine, une nature divine. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu et vraiment homme. Il y a en lui ce qu'on appelle l'union hypostatique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'union hypostatique ? C'est un mot théologique. L'union hypostatique, c'est-à-dire l'union dans la même hypostase, l'union dans la même personne. Une personne de nature. Nature humaine, il est parfaitement homme. Nature divine, il est parfaitement Dieu. Donc cette union hypostatique entraîne une double intelligence en notre Seigneur. Une intelligence divine, une intelligence humaine. Une double volonté en notre Seigneur Jésus-Christ. Une volonté humaine, une volonté divine. Et ceci est le fondement même de toute la foi catholique, parce que c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ a une double nature que le mystère de la rédemption a été rendu possible. La rédemption, c'est quoi ? C'est la mort de notre Seigneur dans sa nature humaine pour ouvrir le ciel à tous les pécheurs que nous sommes. Et donc, s'il n'y avait pas eu la maternité divine qui entraîne le mystère de l'incarnation, le mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ prend chair dans le Saint très pur, la très sainte Vierge Marie, le 25 mars, s'il n'y avait pas eu ce mystère de l'incarnation, il ne pourrait pas y avoir le mystère de la rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt sur la croix parce qu'il est homme, pour pouvoir nous sauver tous parce qu'il est Dieu. Et donc, c'est vraiment la base même de toute la foi catholique. Toute la foi catholique est soutenue là-dessus, est soutenue par ce mystère. Et il ne faut pas s'étonner si, évidemment, au cours de l'histoire de l'Église, on voit toute une série d'hérésies épouvantables pour attaquer cette maternité divine. Et pour attaquer ce qui tourne autour de la maternité divine, le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Il y a trois grands systèmes d'hérésie. Le premier qui est venu dans l'histoire, c'est le système qui niait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les hérétiques qui prétendaient que notre Seigneur Jésus-Christ était la première créature de Dieu. C'est Arius. Arius d'Alexandrie qui va épouvanter le monde va se retrouver pratiquement complètement à rien parce que Arius va défendre partout, va pousser partout dans le monde de l'époque son arianisme, qu'on appelle l'arianisme, qui nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, d'après Arius, est la première des créatures de Dieu. En fait, il jouait sur les mots. Je vous l'ai déjà souvent expliqué, ça aussi, il faut bien le comprendre. Il y a effectivement entre Seigneur Jésus-Christ des choses créées. Notre Seigneur Jésus-Christ est créé dans son humanité. Son humanité n'a pas toujours existé. Faire attention, on entend souvent parfois des catholiques de tradition qui disent, mais notre Seigneur Jésus-Christ est en Dieu, donc l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ a toujours existé. C'est totalement faux. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas toujours existé comme homme. Il a commencé à exister comme homme uniquement le jour de l'incarnation, le jour où notre Sainte Vierge Marie a accepté de devenir la Mère de Dieu après la visite de l'ange Gabriel. Donc, le corps, le sang, l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ sont créés. Cependant, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que personne, n'est pas créé. Puisque la personne de notre Seigneur Jésus-Christ est une personne divine. C'est la deuxième personne de notre Sainte Trinité. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ était avec sa mère, avec son père putatif, Saint Joseph, à Bethléem. En Nazareth, eh bien, c'était la deuxième personne de la très sainte Trinité qui, dans sa nature humaine, mangeait avec Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie. Puis est arrivé un deuxième groupe d'hérésies. Ceux qui, au contraire, allaient nier cette fois-ci l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont tous les gens qui ont été, au cours de l'histoire de l'Église, scandalisés par la Passion. Et c'est pas possible que notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu est accepté cette humiliation d'être écrabouillé sur la croix le vendredi saint. Donc il n'est pas vraiment homme. Il n'a pas vraiment souffert. Cette passion, c'est une apparence, un peu comme l'ange qui était apparu à Tobie, prétendait être humain, mais n'était pas vraiment humain. Donc la nourriture qu'il mangeait n'était pas vraiment consommée par lui, parce qu'il avait une nature angélique. Bien non, notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment homme, vraiment Dieu. Donc cette deuxième hérésie, ces hérésies, parce qu'elles ont fourmillé partout, on appelle ça les hérésies docétistes, qui niaient cette fois-ci, qui niaient l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le démon, qui est le singe de Dieu, est arrivé après avec un troisième système d'hérésie, encore plus dangereux peut-être que les deux premiers. Il a dit, oui, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, c'est vrai, il est aussi homme, c'est aussi vrai, mais il y a en lui une double personnalité. En fait, il y a la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, homme, et la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu. Ça vous semble complètement ridicule. Mais cette hérésie est partie à la conquête du monde, de façon comme un feu qui a tout dévoré. Et celui qui a commencé cette hérésie, ce n'est pas n'importe qui, c'est le patriarche de Constantinople, Nestorius. Ce qu'on appelle l'hérésie nestorienne, les hérésies du nestorianisme. L'hérésie du nestorianisme et qui s'est répandue dans le monde entier, puisque Nestorius est mort en 451. 451. Et Nestorius donc enseignait qu'il y avait une double personne en notre Seigneur Jésus-Christ, de nature mais aussi de personne. Et donc la conclusion est épouvantable. La conclusion c'est que puisqu'il y a une double personne en notre Seigneur Jésus-Christ, d'après Nestorius, donc la très sainte Vierge Marie est mère de la personne humaine. Mais n'est pas mère de la personne divine de notre Seigneur Jésus-Christ. L'affaire était dans le sac pour Nestorius. Et donc l'Église s'est battue contre ces trois hérésies, contre l'arianisme, contre le docétisme, contre le nestorianisme. Et ça a été la victoire de la foi catholique au Concile d'Éphèse, 431. En 431, grâce à l'impulsion d'un des plus grands docteurs de l'Église, saint Cyrille d'Alexandrie, en 431, le dogme de foi est clairement établi. La très sainte Vierge Marie est mère de Dieu. Elle est théotokos, elle a la maternité divine. Et c'est la fête de demain. Et il faut bien comprendre ces choses-là, mes bien chers frères, pour garder la foi. Puisque je vous ai expliqué ce dogme, il résume en quelque sorte tous les grands dogmes de la foi catholique. Toute la foi catholique est fondée sur trois dogmes. Sainte Trinité, incarnation, rédemption, et tout est résumé par la maternité divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est mère de Dieu, elle est mère d'une personne divine qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, elle est mère en tant qu'elle a donné la nature humaine à cette personne qui a donc une double nature, nature humaine, nature divine. L'union hypostatique. Cette union hypostatique, notre Seigneur ne va jamais la perdre. Même sur la croix. Quand il meurt sur la croix le vendredi saint, il y a l'union hypostatique en lui. Il est vraiment Dieu tout en restant vraiment homme. Donc il nous sauve, mais en même temps il souffre. Mystère insondable. Mystère insondable. Alors il y a un point qui m'a, quand j'ai préparé mon serment, un point qui m'a beaucoup frappé. Le nestorianisme s'est répandu partout, malheureusement. Commencez par se répandre dans une chose qui est peu connue. Je vous en ai déjà parlé, j'ai vérifié un peu les dates. Un pays a été d'une façon toute particulière béni par Dieu. C'est l'Arménie. Vous savez qui a converti l'Arménie? Deux apôtres. Pas un, deux. Dieu a envoyé deux apôtres en Arménie. Saint Judas Thaddée et Saint Barthélemy. Et tous les deux sont partis en... Je vérifie si c'est bien Saint Barthélemy, oui, je crois. C'est ça. Saint Judas Thaddée et Saint Barthélemy sont allés évangéliser l'Arménie. Et ensuite, c'est un très grand saint, Saint Grégoire l'Illuminateur, j'en ai déjà parlé, je crois, dimanche dernier, qui a obtenu la conversion de tout le pays. À tel point, écoutez, c'est ahurissant, moi, je ne savais pas ces choses-là, j'ai découvert ça en préparant ce serment, à tel point qu'en 301, l'Arménie a été le premier pays au monde à établir la paix avec l'Église et, accrochez-vous, à établir la religion catholique comme religion d'État du pays. Donc le premier pays qui a établi la religion catholique comme religion d'État, c'est l'Arménie en 301, sous l'influence de Saint Grégoire Illuminateur, qui va mourir un peu après, il est mort en 326. On est 195 ans avant Clovis. Donc le premier pays qui a établi la religion catholique comme religion d'État n'est pas la France, mais l'Arménie. Il me dit, mais à ce moment-là, monsieur l'abbé, pourquoi ne dit-on pas que l'Arménie est la fille de l'Église? Parce que malheureusement, l'Arménie n'est pas restée fidèle à la foi catholique. Très vite, après la mort de Saint Grégoire l'Illuminateur, le pays justement est tombé dans le nestorianisme. Le nestorianisme. Le nestorianisme a se développé dans toute cette partie du monde, surtout en Irak, au Liban, en Syrie. Après, il est allé jusqu'en Inde, en Égypte aussi. Et toute cette région du monde est passée au nestorianisme. Donc ceux, je vous le répète, qui nient, qui prétendent qu'il y a deux personnes, notre Seigneur Jésus-Christ, que donc la très sainte Vierge Marie n'est pas mère de Dieu, mais mère simplement de la partie humaine de notre Seigneur, de la personne humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la France est arrivée après, avec en 496 la conversion de la France par Saint Rémy, le baptême de Clovis, qui est le baptême de la France. Mais historiquement parlant, l'Arménie nous a précédés. Et je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Moi, ça m'a fait vraiment réfléchir en préparant ce serment. On ne comprend pas que, n'oubliez pas que tout le pourtour de la Méditerranée, depuis, je ne parle pas de l'Europe, un statut un peu à part, mais tout ce pourtour autour de la, tous les pays qu'on appelle aujourd'hui les pays du Moyen-Orient, et tout le pourtour de la côte sud de la Méditerranée, tout ce pourtour était intégralement catholique. J'essaie de retrouver un passage que j'avais trouvé dans Darras, l'histoire de l'église de Darras, qui indiquait le nombre d'évêchés catholiques simplement dans tout ce pourtour sud de la Méditerranée. Je n'ai pas réussi à retrouver le passage. Mais si mes souvenirs de lecture sont exacts, c'était au-delà de 150 évêchés. Il y avait 150 évêchés catholiques sur toute la partie depuis, si vous voulez, la Syrie, le Liban, la Libye actuelle, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie. Tout ça était catholique. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Rien. L'islam est passé, rouleau compresseur, tout est crapouillé. Et tous ces évêchés ont littéralement disparu. Et il faut voir les évêques qu'ils avaient à l'époque. Ce n'était pas du menu fretin. C'était du Saint-Augustin, c'était du Saint-Athanas, c'était du Saint-Jean-Chrysostome, c'était du Saint-Cyprien, Carthage. Tout ça a complètement disparu. Et tous ces pays sont devenus des pays ayant une fausse religion. Alors ça laisse rêveur. De foyer du catholicisme qui était vraiment à la base de l'expansion du catholicisme dans le monde entier, il ne reste plus rien. Et en France, qu'est-ce qui reste actuellement? Qu'est-ce qui reste de la grandeur du Moyen-Âge chrétien? Qu'est-ce qui reste de tout ce travail extraordinaire de tous ces saints fondateurs, ces grands évêques qui ont fait germer la foi catholique en France? Qu'est-ce qui reste? Pratiquement plus rien non plus. La France s'est développée de façon extraordinaire dans le surplomb catholique jusqu'au sommet du XIIIe siècle, au temps de Saint-Louis, et après encore a plus ou moins perduré, même de façon imparfaite, jusqu'à la Révolution française en 1789, mais à cause surtout de la... À cause, il faut l'avouer, à cause de la faiblesse du libéralisme des princes chrétiens, surtout de Saint François Ier qui a fait alliance avec le Turc, de Louis XIV qui a fait alliance avec le gallicanisme, et Louis XVI qui, par sa faiblesse, a laissé la franc-maçonnerie s'infiltrer partout dans le gouvernement, ben, ça a donné 1789. Et ça donne la poubelle d'aujourd'hui qui est devenue la France. Il reste plus rien. Dieu, monsieur l'abbé, votre sermon n'est pas très optimiste. Qu'est-ce qui reste? Mais il reste quelques catholiques. Ça fait réfléchir. Il reste quelques catholiques. Il y a eu, faut avouer, il faut être honnête, il y a eu, même en Arménie, quelques catholiques qui sont restés fidèles. On les appelle les chaldéens. L'église chaldéenne, c'est-à-dire l'église royale en arabe. L'église chaldéenne contient les quelques catholiques qui sont restés soumis à Rome, dans le bon sens du terme, et soumis à la foi catholique. Quand j'étais en Australie, j'avais à Brisbane comme confesseur un vieux prêtre, l'abbé Laurence, qui était libanais, mais qui était de rite chaldéen. Rite chaldéen catholique. C'était très bizarre quand je me confessais à lui, il me donnait l'absolution en arabe, parce que la langue sacrée des Chaldéens, c'est l'arabe. Alors ça faisait un peu bizarre, on se voit l'absolution en arabe. Donc les Chaldéens, eux, sont restés catholiques. Les Coptes aussi, en partie, sont restés catholiques en Égypte. Bon, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Humainement parlant, je dis bien humainement parlant, qu'est-ce qui reste? Pratiquement rien. Qu'est-ce qui reste en France? L'islam s'est répandu, se répand encore partout. Et il reste quelques catholiques. Je n'ose même plus donner de nombre. Mais quand on réfléchit un petit peu, si on élimine aussi tous ceux qui se prétendent encore catholiques, mais qui se veulent soumis à la Rome moderniste, à la Rome de Vatican II, à l'église de Vatican II, qu'est-ce qui reste? Même s'il y a, parmi ces groupements qui se disent encore catholiques, mais qui sont soumis à Rome de Vatican II, comme la Fraternité Saint-Pilice, même s'il reste encore parmi eux, la plupart sont véritablement prêtres, leurs sacrements sont encore valides, mais ils sont soumis à l'église de Vatican II, donc ils sont soumis à ce foyer d'hérésie. N'oubliez pas que Saint-Pilice avait déclaré que l'église de Vatican II, le Vatican, que l'église moderniste, que le modernisme était l'égout collecteur de toutes les hérésies. Donc combien de fidèles restent-ils qui ont compris avec la grâce du bon Dieu ces choses-là, qui veulent conserver la foi, en dehors évidemment de l'église de Vatican II? C'est même plus quelques milliers, c'est quelques centaines. Je ne vais même pas vous dire combien de prêtres il reste en France qui, avec la grâce du bon Dieu, eh bien, ont conservé la foi. Alors la question qu'il faut que vous vous posiez, que je dois me poser, c'est pourquoi nous? Pourquoi est-ce que vous et moi, de par la grâce du bon Dieu, nous n'avons plus conservé la foi, tout le monde la perd autour de nous? Pourquoi? Qu'il faut faire quand on médite là-dessus? Tombe à genoux, on rend grâce à Dieu. Rendre grâce, rendez grâce à Dieu en toutes choses sans cesse, dit Saint Paul, c'est l'épître d'aujourd'hui, épître aux Éphésiens chapitre 5. Rendre grâce à Dieu sans cesse. Et c'est ce qui reste en France. En France, il reste quelques centaines de personnes qui ont encore conservé la foi catholique et qui, ayant compris que l'Église de Vatican II n'est pas l'Église catholique, vont, avec la grâce du bon Dieu, pouvoir conserver la foi. Il y a dans la fraternité Saint-Pélis, j'en ai été membre pendant 35 ans, je sais de quoi je parle, certainement des familles qui veulent encore conserver la foi catholique. Mais s'ils restent officiellement unis, reconnaissant Bergoglio comme pape légitime, ils vont perdre la foi comme les autres, malheureusement. Alors, monsieur l'abbé, quelles sont les conclusions de tout ça? Quel est notre devoir? Notre devoir, mes bien chers frères, c'est de transmettre, de garder la foi et de transmettre la foi à ceux dont nous avons la charge. Là, je m'adresse aussi à tous ceux qui m'écoutent sur Internet, puisqu'il y a à peu près 150 à 200 familles qui m'écoutent sur Internet, qui téléchargent la messe en vidéo, plus tous ceux qui vont sur le site d'Anne Marie. Donc, gardez la foi, transmettez la foi à vos enfants. Et vous voyez, il y a une chose qui me frappe aussi dans l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, voilà un officier royal qui s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait une longue marche pour venir voir notre Seigneur. Il a entendu parler de ce prophète extraordinaire qui faisait des miracles. Il s'approche de lui, « Seigneur, mon fils chéri et mourant, venez et guérissez-le. » Et il insiste, parce qu'au début, notre Seigneur Jésus-Christ le met à l'épreuve. Et finalement, notre Seigneur Jésus-Christ lui dit cette phrase lapidaire, « Votre fils vit », c'est tout ce qu'il dit. Et l'homme croit. Un acte de foi extraordinaire, il retourne chez lui et là on lui annonce qu'à l'heure précise où notre Seigneur Jésus-Christ a dit cette parole, votre fils vit, son fils est sorti de la fièvre et a été sauvé. Mais il y a une phrase dans l'évangile, la dernière phrase de l'évangile d'aujourd'hui en Saint Jean. Quand il réalisa que notre Seigneur Jésus-Christ avait tenu parole, avait guéri son fils, il est écrit, il crut lui et toute sa maison. Et chez les Romains, quand on utilise cette phrase « toute la maison », c'est pas simplement le père, la mère et les enfants. C'est toute la maison en général, c'est-à-dire tous les serviteurs. Il y a beaucoup de serviteurs à l'époque. Et donc, c'est tout le monde qui se convertit. Donc, cet homme rentre chez lui. Non seulement il se convertit, il croit à notre Seigneur Jésus-Christ, il crut, mais toute sa maison va croire. Il va faire ce travail apostolique extraordinaire et transmettre la foi nouvelle qu'il vient de découvrir. Il va la transmettre à son épouse, à ses enfants et à tous les serviteurs. Tous vont devenir catholiques. Et c'est ce qu'il nous faut faire, mes bien chers frères. Nous aussi, nous devons transmettre. Mais attention, pas simplement transmettre la partie physique de la foi catholique. Pas simplement transmettre le catéchisme, transmettre l'amour de Dieu. Je vous l'ai souvent déjà expliqué, c'est capital pour nous à comprendre ce qui a tué la France autour des années après-guerre, surtout à la fin du règne de Pie XII, qui malheureusement n'a pas pu empêcher tout ça à cause du déferlement des idées libérales en France et dans le monde entier. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Français catholiques des années fin des années 50, début des années 60, ont arrêté de transmettre. Ou plus exactement, ils ont encore transmis un peu le catéchisme. N'oubliez pas qu'autour des années 60, avant Vatican II, tous les prêtres étaient en soutane. L'unique messe qui était célébrée, c'était la messe traditionnelle. L'unique catéchisme qui était utilisé, c'était le catéchisme de Saint-Pélis. Et pourtant, la France a perdu complètement la foi à ce moment-là. Parce que les parents ont transmis, mais ils ont oublié de transmettre quelque chose. Ils ont transmis matériellement la foi catholique, les enfants allaient au catéchisme. Mais ils n'ont pas transmis l'amour de la foi. Les parents n'ont pas pu transmettre l'amour de la foi, l'amour de la prière, l'amour de la confession, l'amour de la sainte messe, l'amour du catéchisme. Et là, les prêtres ont une responsabilité énorme. Et tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Et il y a une autre phrase qui m'a frappé, c'est dans l'épître d'aujourd'hui. Rachetez le temps, nous dit Saint Paul aux Éphésiens, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Beaucoup de gens me disent, monsieur l'abbé, on vit dans une époque épouvantable. On vit aussi dans une époque magnifique. C'est un peu comme les Christeros, les enfants Christeros qui montaient sur leur âge pour joindre l'armée Christera en Mexique, aux années 1925-1928. Ils montaient sur leur âge. Et il disait, il faut en profiter, parce qu'actuellement, le paradis n'a jamais été aussi bon marché. Et beaucoup sont en martyr. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Nous vivons dans une époque où la tiédeur n'est plus possible. Les tièdes seront balayées. Moi, le premier, si je deviens tiède. Si nous devenons tièdes dans notre foi, nous ne pouvons plus conserver la foi. Ce n'est plus possible. Donc, c'est une époque dans laquelle le bon Dieu donne les grâces pour devenir, vous et moi, des héros de la foi catholique. Donc, la tiédeur n'est plus possible. On pouvait encore être un peu tiède au Moyen-Âge sous Saint-Louis. Évidemment, c'est encore possible de conserver la foi comme ça. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Et donc, il faut demander au bon Dieu cette grâce de l'héroïsme de la foi catholique. Il faut demander cette grâce aussi à notre Sainte Vierge Marie, justement, à notre Sainte Vierge Marie qui est Mère de Dieu. Et comme elle est Mère de Dieu, elle a sur son divin Fils une influence considérable. Il n'y a pas une seule chose que notre Sainte Vierge Marie ne demande à son Fils qu'il ne lui accorde immédiatement. Donc, supplions notre Sainte Vierge Marie. Demandons-lui ces deux grâces, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces. D'abord, de conserver la foi, première grâce. Deuxième grâce, la grâce de transmettre cette foi et transmettre l'amour de la foi. L'amour de la foi à tous ceux dont nous avons la charge, ou dont nous aurons un jour la charge. Peut-être qu'actuellement, vous ne connaissez pas encore tous les gens dont vous aurez la charge, plus ou moins directement ou indirectement. Il faut vous remplir du bon Dieu, faire le plein des grâces spirituelles, en quelque sorte, pour pouvoir un jour, le jour où cette charge va se déployer devant moi, pour que je puisse transmettre. Malheur à ceux qui auraient été transmettre. C'est ce qui se passe actuellement. On en arrive à des abominations, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Une partie du clergé allemand actuellement demande l'abolition du sacerdoce. Rien que ça. L'abolition des sacerdoces. Plus de prêtres. Si plus de prêtres, plus de messe, plus de sacrements, c'est l'écroulement de toute la foi catholique. Et voilà un groupe d'évêques allemands qui demande officiellement l'abolition officielle du sacerdoce dans l'Église catholique. Certes, c'est plus l'Église catholique, c'est l'Église de Vatican II. Mais enfin, quand même. Et les catholiques allemands se taisent. Bergoglio se tait. Ils ne disent rien. Il ne veut pas dire qu'il est d'accord. Bien trop malin pour ça. Il va laisser faire. Laisser pourrir. Que la situation se pourrisse littéralement pour que dans la pratique, le sacerdoce disparaisse. Ce qui est d'ailleurs déjà plus ou moins le cas. Alors supplions la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, vous et moi. Supplions-la tous les jours, demandez demain cette grâce au bon Dieu, la grâce de garder la foi et de garder et de pouvoir transmettre cette foi, transmettre l'amour de la foi catholique à ceux dont nous avons la charge. Alors passons par cette belle fête de la Très Sainte Vierge Marie demain, la fête de la divinité, la maternité divine à la Très Sainte Vierge Marie, pour que nous puissions être fidèles. La grâce de la fidélité, c'est la grâce des grâces. Et si je suis fidèle, à ce moment-là, on ouvre la porte à la plus grande des grâces qu'on puisse recevoir, la persévérance finale. Persévérance finale, c'est quoi? C'est la fidélité jusqu'au jour de notre mort. Et si je suis fidèle, trouvé fidèle le jour de ma mort, alors le bon Dieu pourra nous dire, venez à moi, possédez le royaume des cieux qui vous a été préparé. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.